tous et bienvenue autour de votre grande table du vendredi. La sensibilité est-elle devenue une nouvelle religion? Elle dénonce et pointe ceux qui s'offusquent de tous ces sujets, la laïcité, l'appropriation culturelle, l'universalisme. Notre invitée, la journaliste Caroline Fourest, elle l'engendra à partir de 12h55. Mais d'abord, en 1992, il peint une semelle avec du vernis à ongles rouge. Sa signature est née. Star de la chaussure et du talon aiguille, le créateur Christian Louboutin est notre invité à l'occasion de sa première grande exposition en France. C'est au Palais de la Porte Dorée à Paris. Exhibition exhibitionniste est à voir jusqu'au 26 juillet. Et Christian Louboutin est tout de suite notre invité à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Il a toujours mis en avant son travail davantage que sa personne. S'il doit y avoir une photo dans un magazine, il préfère que ce soit une photo d'un de ses souliers plutôt qu'un portrait de lui. Mais avec le temps, il est devenu indéniable que ses souliers parlaient aussi de lui, de son monde intérieur, de sa culture, de sa personnalité, de son tempérament et de son rapport au réel. Et que s'il montrait ses souliers dans une exposition et consacrait une exposition à son univers, il ne ferait rien d'autre. En définitive, oui, que parler de lui, s'exhiber. Voilà ce que dit sur vous l'auteur de Cendrillon, le romancier Éric Reinhart. Bonjour Christian Louboutin.
Bonjour.
Il paraît que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Est-ce que ça vaut aussi pour les créateurs ?
Alors moi, je ne suis pas cordonnier, je dessine des souliers et j'ai la chance maintenant de dessiner des souliers pour les hommes aussi. Donc non, je me suis... Ça va pas si mal.
Aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui ça va pas si mal.
Montrez voir.
Elles sont juste pas bien brossées.
Des chaussures noires, plutôt.
Souliers noirs avec une semelle avec des crampons, vu que j'ai une Vespa, et donc c'est beaucoup plus pratique pour la Vespa.
Et un tracé, une ligne rouge sur le côté. Pourquoi elle ce matin? Parce qu'elle s'accordait bien à votre silhouette, à votre tenue ou à une humeur? Qu'est-ce qu'elles nous disent de vous ces chaussures-là aujourd'hui?
Alors elle parle de ma journée. J'ai commencé assez tôt. Je suis allé déposer mes enfants à l'école et ensuite j'ai pris ma Vespa. Et avec ma Vespa, je suis allé au Palais de la Porte Dorée vérifier certaines choses, puisque l'exposition a commencé il y a 2 jours, mais il y a toujours des choses à vérifier, des cartels, etc., qui étaient mal mis, des dates qui n'étaient pas les bonnes. Et donc la Vespa, pour l'enlever du cric, j'ai toujours des semelles à crampons. Donc voilà, donc ce sont des souliers. Et ensuite j'ai un déjeuner élégant. Donc j'ai un costume et je pensais que c'est en faveur du costume que j'ai mis les souliers et pas le contraire. En général, je commence pas par les souliers, mais là j'ai vraiment commencé par le costume et ça m'a donné les souliers au bout.
Avec cette exposition, vous avez choisi de vous montrer, c'est ce que dit Éric Reinhart, et il a raison, de vous dévoiler. Mm-hmm. C'est pas votre corps, c'est votre imagination, c'est vos influences, c'est tout ce qui vous a fait voyager aussi et qu'on retrouve aujourd'hui dans les formes, dans les courbes, dans les choix des couleurs de vos créations et notamment de vos chaussures, souliers, talons, tout ce qui habille le pied des hommes aujourd'hui et des femmes déjà hier. Pourquoi ce passage maintenant de la discrétion à l'exhibition, Christian Louboutin ?
À cause de l'exposition et à cause du lieu de l'exposition. Le lieu n'est pas anodin puisque moi je suis né juste à côté. L'école, il y a des fenêtres qui donnent... Enfin, le dernier collège où je suis allé, les fenêtres donnaient sur cet endroit, donc le Palais de la Porte Dorée, anciennement appelé le Musée des Arts Océaniens et Africains. Et donc j'y ai passé toute mon enfance quand on habitait avenue Doménil. Quand on allait au zoo, je passais par ce musée. Donc c'est vraiment un endroit important pour moi et vraiment un endroit très très au cœur de mon enfance. À cause de ça, quand la directrice du musée m'a proposé de faire une exposition, à la base autour de l'endroit, d'une certaine manière, une réflexion sur le palais de la Porte Dorée, puisque c'est un endroit que je connais donc vraiment, vraiment, vraiment bien. De fil en aiguille, on s'est rendu compte que moi, disons, un créateur parlant d'un endroit, d'un énorme édifice, puisque c'est un énorme édifice, c'était en relation avec ce que cet endroit m'avait donné. Et ce que cet endroit m'a donné, c'est finalement beaucoup mon travail. Donc, en fait, ça parlait de mon travail. Donc, puisque ça parlait de mon travail, c'était une exposition sur mon travail. Voilà, donc ça, ça a été... C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il s'est agi... Donc quand j'ai dit oui à une exposition là-bas, je me suis rendu compte que je le veuille ou que je le veuille pas, si c'était dans cet endroit, ça allait parler de moi, pas que de mes souliers, mais j'allais me mettre à parler de mon enfance, de ma famille, etc. Donc c'est s'exhiber. Et en plus, au moment de chercher un titre, exposition, moi je voulais que le titre soit facile en anglais. Donc exposition, ça se dit exhibition, et je trouvais que bon, donc c'est exactement la même chose, mais c'est plus fort. Et en fait, s'exhiber, c'est un peu se mettre à nu.
Se mettre à nu, c'est ce que vous faites donc dans cette exposition, exhibition. Jennifer Lopez, elle chante parfois et elle dit qu'elle veut, c'est Louboutin. Votre nom en anglais, hein? Louboutin, 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 Christian Louboutin, après les grands magasins, les podiums, les tapis rouges, voilà donc que vos souliers font leur entrée au musée ici à Paris, au palais de la Porte Dorée. Alors, c'est quand même intéressant aussi de voir que un soulier peut être à la fois un objet de consommation, un objet icône aussi de la culture pop aujourd'hui, mm-hmm. et avoir sa place dans un musée comme celui-ci. Pourquoi d'ailleurs font-ils leur entrée au musée au Palais de la Porte Dorée et pas au musée des arts décoratifs? Je précise d'ailleurs que le commissaire de l'exposition est l'un des directeurs du musée des arts décoratifs, Olivier Gabet, qui a pensé cette exposition avec vous. Pourquoi pas non plus au Palais Galliera, musée de la mode à Paris? Comment expliquer leur présence dans ce lieu-là, qui a aussi une histoire?
Parce qu'à nouveau, c'est un lieu qui a à voir avec mon enfance et qu'en plus... Moi, je suis, comment dire, presque un peu tombé par hasard dans le milieu de la mode. À la base, très tôt, vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à dessiner des souliers. À 16 ans, j'ai compris que ça pouvait être un métier et un joli métier. Et donc, à partir de 16 ans, j'ai commencé à dessiner les souliers, mais j'ai juste changé la position. J'ai commencé à les faire de profil de 10 à 16 ans et ensuite, j'ai commencé à faire profil et trois quarts face. Mais mes premières amours, ça n'a jamais été la mode. Mes premières amours, ça a été, et les premières personnes pour qui j'ai voulu dessiner des souliers, c'était les danseuses de music hall, le cabaret, les gens sur scène. Donc dans le fond, la mode, Galliera ou le musée des arts de la mode, enfin le musée des arts décoratifs, sont vraiment des endroits de mode. Donc dans le fond, c'était pour moi, ça aurait été réducteur. Parce que, numéro un, j'ai un travail qui plaît à beaucoup de gens, et pas qu'aux fashionistas et aux gens de la mode. Mais je voyage beaucoup, je vois que le spectre, on dit, le spectre des gens qui aiment mon travail est beaucoup plus large. Donc moi, je voulais, de toute manière, surtout à Paris, je voulais une exposition populaire de qualité. Et évidemment qu'on peut faire des choses de qualité à Galliera ou au Louvre, là, aux arts décoratifs, mais ça n'est pas vraiment populaire. C'était pas comme j'imaginais, dans le fond, ça c'est sûr. Et je trouve que c'était important. C'est un très beau musée, il est à l'est de Paris, et je trouvais que c'était assez normal de rendre à César ce qui a un peu commencé à César, parce que moi, mon premier dessin de souliers, c'était une espèce de poster, comme ça, c'était une signalétique, et il était dans ce musée. Donc la première fois que j'ai vu un dessin, c'était dans ce musée. Donc vraiment, beaucoup de choses ont commencé dans ce lieu.
De souliers.
Oui.
C'est ça, c'est d'ailleurs ce même panneau signalétique avec ce soulier à talons barré de rouge en l'espèce qui se retrouve dès le début de votre exposition pour recréer cette image qui vous a poursuivi et que vous aviez perçu quand vous étiez enfant. Il faut dire peut-être pourquoi à l'époque. Simplement, les talons risquaient de rayer le parquet, hein, c'est ça.
Exactement. En fait, donc, c'est un édifice qui a été construit, qui a été fini en 1931. Et donc les sols, donc c'est un édifice magnifique, vraiment avec des objets incroyables, une fresque incroyable, une tapisserie de pierre incroyable, tout est beau, vraiment tout est beau. La rampe d'escalier, tout est beau, les sols sont magnifiques. Et donc les sols sont des parquets assez précieux ou des mosaïques. Et donc depuis 1931, il y a eu, enfin j'imagine un peu après en fait, c'est un dessin des années 50, donc il y a eu un panneau à l'entrée qui interdisait les souliers avec un talon fin. Parce que l'embout en métal dans les années 50, le bambou, c'est-à-dire ce qui touche le sol, était un embout de métal. Ce qui fait qu'en fait, ça cassait les parquets.
Voilà. Et ce palais de la Porte Dorée abrite aujourd'hui aussi le Musée National de l'Histoire et de l'Immigration. Pour Arte, la caméra d'Olivier Garouste vous a suivi, Christian Louboutin, en pleine préparation de cette exposition et dans vos ateliers, voir aussi comment se prépare une collection extrait.
Vous pouvez la même faire là. J'ai des pensées qui correspondent à différentes personnalités. J'ai le regard d'un créateur. J'ai le regard d'un homme qui pense à sa femme, ou sa maîtresse, ou sa fiancée.
Attention, on enlève les talons. 1, 2, 3. Tournez l'autre côté.
Et puis j'ai le rapport, le copain des filles. Et puis j'ai le rapport presque fille. Et ça, c'est un. Sur le même dessin, je vais avoir une analyse complètement différente. Il y a quand même, dans mon travail, il y a différents types de caractères qui s'entremêlent et qui, de temps en temps, s'entrechoquent, de temps en temps, s'engueulent et puis, de temps en temps, ne sont pas d'accord. Alors, dans toute la collection, il y a une partie de toutes ces fragmentations de ma propre personnalité, mais que je laisse parler à l'intérieur de moi. C'est important.
Voilà, extrait du documentaire d'Olivier Garouste qui sera diffusé le 13 mars à 22h20 sur Arte. Quelle part de vous dans la création? Est-ce que vous cherchez toujours, souvent, à faire des collections qui d'abord vous ressemblent?
À partir du moment où je les dessine, elles me ressemblent. Alors, de temps en temps, je ne me reconnais pas particulièrement, c'est-à-dire qu'elles me surprennent, mais dès qu'on se met à dessiner, c'est forcément de soi à soi. Surtout que... Quand je dessine, bon, numéro un, je m'isole, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que tout ce que j'ai dans la tête est dans ma tête, c'est-à-dire que je dessine avec ma mémoire, je dessine pas avec des documents. Il y a des choses qui sont assez précises, de temps en temps, il y a une inspiration qui est très, très nette. Par exemple, la semelle rouge, elle est née d'un soulier, et j'avais vraiment une peinture dans la tête, j'avais une peinture d'Andy Warhol, mais je l'avais pas à côté de moi. Et c'est très important, parce que quand les choses passent par le filtre de la mémoire, n'importe quelle influence doit passer, pour moi, par le filtre de la mémoire, des souvenirs, et ensuite, donc ce sont des choses qu'on ingère, et ensuite qu'on digère, et à ce moment-là, le dessin arrive. Donc ça parle de soi, mais de temps en temps, c'est curieux, on s'étonne soi-même.
C'est un voyage imaginaire, d'abord?
C'est un voyage imaginaire, oui. Mais qui commence avec de longues racines. C'est un voyage. Enfin, avant de dessiner, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, en fait.
Vous acceptez le regard des autres aussi sur vos dessins, vos créations, ce jugement. Il est important pour vous?
Oui. Mais le dessin, vous me posez la question sur le dessin?
Ou sur le soulier, fini. Vous dites quand vous créez, vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin d'être seul avec vos pensées. Est-ce qu'il y a un moment où le regard des autres devient important?
Alors, le regard des autres devient important quand mon travail est fini, c'est-à-dire quand le soulier existe. Et à ce moment-là, on est bien obligé d'accepter le rapport aux autres. Enfin, on est bien obligé d'accepter la validation des gens. Ça, c'est normal. Mais, moi, finalement, en dessinant, en faisant des souliers, je propose et ensuite les gens disposent, c'est normal.
Oui, mais ça vous fait douter ou au contraire, ça vous fait avancer?
Non, ça me fait pas douter. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis assez facilement influençable. Donc j'écoute les gens en général, mais je me laisse influencer. Maintenant, je me rends compte que j'ai un peu laissé... Maintenant, je me laisse moins influencer. Quand c'est sur mon travail, je me laisse moins influencer. Pourquoi? Parce que finalement, tout le monde a un avis, bon, ce qui est normal d'ailleurs, tout le monde a des avis, mais quand c'est le cœur de mon travail, il y a un moment où je dois trancher. Et de temps en temps, comme je suis justement influençable, je me dis, ah mais oui, j'ai peut-être pas vraiment raison, etc. Alors j'ai en général tort sur beaucoup de choses, mais sur mon travail, je sais de quoi je parle, je sais ce que j'aime, donc je dois vraiment rester fidèle à moi-même. Donc à chaque fois que j'ai vraiment écouté quelqu'un sur une chose qui avait à voir avec mes dessins, avec mon travail, vraiment le cœur de mon travail, ben j'avais tort.
À la croisée de quelle discipline artistique placez-vous vos créations, Christian Louboutin ?
Alors ça, j'y ai beaucoup réfléchi, particulièrement en travaillant sur cette exposition, parce que moi, mon père était un artisan. Et donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup regardé les objets, grâce à mon père. Et puis, j'aime l'artisanat. Et ce qui est intéressant avec l'artisanat, c'est que c'est souvent très généreux. Il y a des gens qui créent des choses, qui ne les signent pas, alors que pour moi, elles ont la même valeur artistique qu'une chose, disons, un objet d'un artiste. Et donc, je me suis vraiment posé la question, on me pose la question si je me considère comme un artiste, alors la réponse, c'est non. Je dis toujours que je suis plutôt un artisan du luxe. Alors, plusieurs fois, on m'a dit non, ça, c'est le travail d'un artiste. Alors, dans le fond, je me suis rendu compte que je peux pas accepter artiste, mais je suis un artiste appliqué. Artiste appliqué, ça veut pas dire que je suis un petit enfant appliqué, ça veut dire que je fais partie des arts appliqués. Et voilà. Mais je me pose vraiment beaucoup la question pourquoi, de temps en temps, quelqu'un qui fait un travail extraordinaire, mais où il y a une application, n'est pas un artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Les artistes sont des gens qui font des choses où il n'y a pas de valeur appliquée. C'est-à-dire, voilà, on crée et puis ça fait réfléchir les autres. Alors que si on crée et on peut s'asseoir sur ce qu'on crée, eh ben, ça ne fait plus réfléchir les autres, ça les fait s'asseoir. Donc, c'est une application. Donc, tout à coup, on devient...
Et une utilité, en fait.
Voilà. Dès qu'il y a une utilité... On n'a plus le statut d'artiste. Je trouve ça assez injuste. Alors là, je parle pas du tout pour moi, mais je parle pour de très très grands artisans. Dans l'exposition, par exemple, il y a des objets de la seconde partie, des objets, des sculptures, de la peinture, etc. Et il y a des œuvres de très grands artisans. Il y a par exemple cette femme qui s'appelle Lynn Vautrin. Je pense à une autre femme qui s'appelle Janine Janet. Janine Janet a fait des sculptures extraordinaires, elle a fait des objets extraordinaires, mais comme elle faisait des choses pour des vitrines, elle n'a jamais vraiment été considérée comme une artiste. On oublie qu'elle n'a pas signé, mais qu'elle a aussi dessiné beaucoup de costumes, dont le Testament d'Orphée pour Cocteau. Mais comme son travail avait une valeur appliquée, justement fonctionnelle, elle n'a jamais été considérée comme une artiste. Et je trouve ça très injuste.
Vous parliez de l'influence de votre père, qui était ébéniste. Mm-hmm. On retrouve effectivement dans vos créations ce travail, cette capacité à sculpter aussi une matière. La matière, elle est vivante pour vous. Vous avez quelle relation avec elle, avec ce matériau?
Alors, ça dépend des matières. Ça dépend de la matière. Par exemple, la poterie, les poteries, c'est-à-dire le cuir, c'est une matière vivante, absolument. Ensuite, il y a les tissus ne sont pas des matières vivantes. Il y a vraiment la matière vivante. Ça n'aime pas forcément les cuirs, mais c'est tout ce qui, quand même, on réussit à mouler, on réussit à tourner, on réussit à draper, mais de manière petite. Ça, oui, il y a tout à fait un rapport vivant. Enfin, tout ce qui est, il faut pas oublier que tous les souliers commencent sur en fait une forme. La forme, c'est pratiquement comme un visage. C'est une chose qu'on doit sculpter d'abord, et ça fait office de visage de base. Et ensuite, tout ce qu'on applique dessus, c'est vraiment d'une certaine manière comme du maquillage en fait. Mais la forme de base, on doit mouler sur la forme.
L'exposition, Christian Louboutin, commence dès qu'on monte l'escalier pour y accéder sur un mur avec des noms. Le nom de tous les modèles que vous avez créés, Escarpino, Gwendoline, Pensée, on en retrouve beaucoup. Et on a envie de vous emmener assez vite vers cette fameuse chaussure Pigalle qui a fait votre notoriété, que vous avez revêtue d'une bande rouge sur la semelle, ce grand talon, et qui est quand même une marque importante et révélatrice de féminité aujourd'hui. On va écouter d'abord un extrait de L'homme qui aimait les femmes, voir s'il vous parle, cet homme-là.
Une belle jambe, c'est très beau, mais je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les jambes... femmes sont des compas, sont des compas. Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie.
Voilà, Charles Denner qui devise sur les femmes dans ce film de François Truffaut sorti en 77. Qu'est-ce que le talon fait aux femmes pour vous, Christian Louboutin?
Alors, c'est rigolo d'entendre Charles Denner parce que dans l'exposition, j'ai pensé à un moment mettre un extrait de Vivement Dimanche. Puisqu'à un moment, il y a donc même réalisateur, mais dans Vivement Dimanche, il y a Fanny Ardant qui sort une paire de souliers à talons et elle va les mettre sachant que la personne qu'elle protège ne saura pas que c'est elle. Donc le rapport au talon, il a déjà un rapport musical, c'est un son. C'est un son.
Alors ça, on pense évidemment à Talon Aiguille aussi d'Almodovar.
Bien sûr. Ouais.
On beaucoup regarde de films, par la petite beaucoup. Fenêtre, la lucarne, le pied des femmes, et on entend l'écho du talon qui est au début de cet extrait aussi. Hein.
La Féline, le Tourneur, enfin il y a beaucoup beaucoup de films. Hein. Belle de jour aussi, le rapport, l'hésitation, ce que veut dire. Ben, je crois que le talon c'est un son, ce sont des sons. À partir de ces sons, on entend, donc on comprend beaucoup beaucoup de choses, des hésitations, au contraire des décisions, des lascivité, le contraire. Enfin, il y a beaucoup 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 de choses. C'est quand même, ouais, à nouveau, je viens plutôt de l'univers de la danse, donc même le flamenco, je veux dire, c'est un son. Le flamenco sans le bruit du talon, ça n'existerait pas. Il y a beaucoup 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 de choses. Donc le talon, c'est d'abord un son quand même. Ce sont d'abord des sons.
Et les femmes, est-ce que vos talons, est-ce que vos chaussures, certes elles les habillent, mais est-ce que ce sont des signes de puissance pour vous ou est-ce que ce sont d'abord aussi une manière d'habiller la vulnérabilité, la fragilité du pied féminin et de la femme? Vous leur donnez une carapace
À nouveau, ça dépend de chaque femme. Vous savez, je me suis rendu compte, enfin, très tôt, c'est que moi, je propose quelque chose et la femme en dispose. C'est-à-dire que chaque femme va avoir un rapport avec son soulier complètement différent. Complètement différent. De temps en temps, ce soulier va lui apporter la petite chose qu'elle estime ne pas avoir assez et que ça va rajouter. Et de temps en temps, le même soulier rajoutera une petite dose d'autre chose qu'une autre femme pense ne pas avoir assez. Donc, une anecdote, il y a assez longtemps, justement, avec ce soulier Pigalle, donc qui est un escarpin que j'ai décliné en beaucoup de choses, mais disons un escarpin qui a talon droit de 10 cm ou de 12 cm, de forme pointue. Une femme est arrivée dans la boutique, ma première boutique, la rue Jean-Jacques Rousseau, très mince, comme ça, une forme d'élégance très classique, comme ça, très 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 élégante, un peu sèche, une américaine avec un gros ceinturon, comme ça, pour tirer la taille. Et elle enfile cette paire de souliers, les Pigalle. Elle s'est regardée dans la glace et elle a dit « Ah, c'est génial, j'ai l'air d'une tarte » en anglais. Et alors, on était un peu étonnés, elle avait l'air de beaucoup de choses, mais pas vraiment d'une tarte, comme elle disait. Et quelques heures après, une femme très très belle, d'ailleurs, avec beaucoup beaucoup de forme, est arrivée. Alors très sensuelle, une sensualité à l'italienne. Elle est arrivée, elle a mis le même soulier, elle s'est regardée dans le miroir et elle a dit « Ah, parfait, j'ai l'air tellement chic !» Donc, il y en avait une dont la sensualité n'était pas en doute. Elle avait besoin d'un tout petit peu de chic parisien, disons. Et l'autre, elle avait besoin d'un peu de sexualité dans sa silhouette. Donc, vous voyez, le même soulier a un rapport différent.
Et pour vous comprendre, vous avez dit aimer que c'était même l'un de vos livres importants en ce moment, « Blonde » de Joyce Carol Oates. On écoute l'écrivaine américaine.
Well, it's feminist in many ways.
Oui, c'est féministe à plus d'un titre. Il y a vraiment une colère de fond sur la manière dont Marilyn Monroe a été traitée. Et moi, je ressens cette l'injustice dont elle a été victime, son désespoir, la dégradation dont elle a été victime. Tout le monde dit, elle était très belle, mais elle pouvait pas, elle ne savait pas jouer. C'est pas vrai. C'était une merveilleuse actrice. C'est très difficile d'être une comédienne. Il y en a très très peu qui sachent faire ça. Évidemment, ça a l'air facile comme ça. Évidemment, quand on entend un pianiste qui joue merveilleusement du piano, on se dit « Ah, oh, ben, c'est facile !» Mais non, c'est pas facile. Moi, personnellement, j'éprouve de la colère à propos de l'injustice sur l'image de Marilyn.
Marilyn Monroe, c'est une femme que vous auriez eu envie de protéger en l'habillant ?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, il y a deux femmes au cinéma pour quand on dessine des souliers qui sont très importantes. Il y a Marilyn de dos, finalement, et Marlène de face. Ça, je pense vraiment quand je pense à un dessin. Parce que Marlène, c'est une pose, probablement les jambes croisées. Et on voit souvent comme ça le coup de pied chez Marlène. Et de dos, la manière de marcher, la démarche, c'est vraiment Marilyn. Mais le livre est magnifique. Le livre est magnifique parce que je suis entièrement d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Marilyn, plein de gens l'ont considérée comme pas une bonne actrice, alors que ce qui est le plus compliqué quand même, c'est de faire passer l'émotion. Et Marilyn, tout le monde a envie de la protéger. Les femmes, mais aussi les hommes. Tout le monde a un rapport. Elle n'a fait peur à personne. Elle avait juste, tout le monde a envie de protéger Marilyn.
En un mot, quelle est la signification du rouge pour vous, Christian Louboutin?
Alors, la signification du rouge, elle est différente. Ah, en amour, ok. La passion, alors.
Il y a combien de rouges aujourd'hui sur la Terre?
Combien de rouges? Ah, ça, j'ai pas la moindre idée, mais il y en a une multitude énorme. Mais moi, mes rouges préférés sont les rouges. Ma semelle en est une, dans le fond. Ce sont les rouges où il y a ni rose, ni orange, ni bleu, ni violine, ni violacé. Vraiment, le rouge, on se dit. Le vrai rouge, quoi, sans une autre couleur à côté.
Votre rouge, à vous, il a été copié, piraté, il est aujourd'hui protégé, en tout cas cette bande que vous avez adoptée. Juste pour terminer, Christian Louboutin, dans la deuxième partie de la Grande Table, on va parler de la question sensible de l'appropriation culturelle avec Caroline Fourest. Toutes ces inspirations qu'on retrouve dans cette exposition, vous les créditez quand vous empruntez à d'autres cultures. Est-ce que vous prenez soin, par exemple, de faire réaliser des motifs par des artisans de leur pays ou des cultures d'origine?
Bien sûr. Moi, j'ai un rapport très précis avec l'artisanat, c'est que beaucoup d'artisanats sont en danger. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'artisanat et j'aime beaucoup les gens, les artisans. Donc, quand je travaille avec des artisans, il y a toujours quelqu'un pour me dire, mais on pourrait faire ailleurs moins cher. Et je dis toujours, je me fous de faire moins cher. Ce qui est important, c'est de protéger l'artisanat. Donc, si on peut faire 200 paires avec des artisans de Colombie, et c'est leur travail, et c'est leur savoir-faire, eh bien, il y aura 200 paires, il n'y en aura pas 202. C'est tout. C'est normal. Parce que sinon, si on transporte les artisanats, en fait, dans d'autres pays, pour des raisons, je veux dire, tout simplement pécuniaires, eh bien, finalement, on tue cet artisanat. Donc moi, je suis très clair là-dessus. Les artisans, il faut travailler avec les artisans, il ne faut pas leur voler leur artisanat, bien sûr.
Merci beaucoup à vous, Christian Louboutin. On n'a pas parlé de toutes vos inspirations, un peu du cinéma. On n'a pas parlé de David Lynch, on n'a pas parlé d'Helmut Newton. On n'a pas parlé de tous ces artistes, y compris au Pakistan, qui vous influencent sur les motifs, les couleurs, les représentations, ceux qui vous traversent, ceux avec lesquels vous aimez collaborer. Mais c'est à voir dans cette exposition exhibitionniste au Palais de la Porte Dorée jusqu'à l'été. Merci à vous d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.